présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Vêtements achetés sur le marché, chaussures aussi. Bon, je crois que ça pourra aller. Ah, je n'aurai pas de papier d'identité. On me les a volés. Et je n'ai pas les moyens de m'en faire d'autres. À 10h, il sort, marche à pied, longe la Seine et se dirige jusqu'à ce qu'il trouve un marché forain. Là, il y a des vêtements bon marché, des imports et des vêtements faits spécialement pour ce genre de vente. Fin de série, défaut de fabrication, fin de tissu. Mais ça n'a, c'est le prix est tellement bas que ça n'a aucune importance. Les vêtements sont mis en rack sur des tables en trépied. Les gens se promenant le regardent, les sous-pèsent. On ne peut pas essayer. Galien regarde. Il ne sait pas quoi prendre. Et puis, il prend un costume en tissu qui froisse, gris. Puis, une chemise blanche toute simple. Cherche des chaussettes en nylon, mi-bas, grise. Les chaussettes, c'est très important. On remarque les gens chics grâce à leurs chaussettes. S'ils sont déguisés en pauvres, cela se voit de suite. Et les souliers aussi. Il prend une paire de souliers, pas des mocassins, mais souliers noirs, plastique, imitation cuir. Puis une cravate. La cravate doit être neutre et usée, toute simple. Une fois qu'il a acheté tout ça, il s'en retourne chez lui. Il faut entrer chez lui, il va dans sa chambre. Il sort d'un sac en plastique les vêtements qu'il a achetés. Les froisses pour faire vieux. Ensuite, il cire ses chaussures pour lui enlever le neuf. Pour lui enlever la brillance du neuf. Ensuite, il prend le portefeuille en plastique qu'il a acheté pour mettre un peu d'argent dedans. L'argent servira pour le loyer. Et il s'habille. Quitte ses vêtements. Et s'habille. Une fois habillé, il sort de sa chambre comme ça. Et sort de l'appartement. marche à pied. Il décide de se diriger dans un quartier assez populaire. Nous marque, pourquoi pas. C'est plus folklorique que populaire. Mais on peut trouver des endroits encore assez pauvres. Après avoir marché pendant une heure, regardez les pancartes à louer. Il va rentrer dans un café pour se reposer un peu. C'est un café petit, genre populaire, le café qui n'a pas changé depuis les années 50. Il n'est pas grand et est sombre dedans. Trois vieux boivent chacun dans leur coin. Il y a de la musique qui provient peut-être d'un poste à radio. Au comptoir, un gros homme à tablier bleu, casquette et cigarette au bec, essuie des verres avec un torchon qui n'a peut-être pas dû être lavé depuis longtemps. Jamais lavé. Galien va au comptoir. Un demi. Le vieux le serre. Et tout en continuant à essuyer ses verres, surpris d'avoir un nouveau client, il demande. Vous êtes d'ici ?
Non, pas vraiment. Cherche à me loger.
Mais quelque chose de pas trop cher.
Tu peux donner combien par mois ?
Je sais pas, peut-être 300.
C'est peu. Moi, j'ai ma sœur qui a une chambre de bonne. Ça fait un an qu'elle cherche à la louer. Peut-être que ça t'ira.
Galia lui demande. C'est loin ?
Non, deux rues plus loin, en montant là. Ça t'intéresse ?
Oui, je veux bien voir.
Je vais te donner son adresse.
Il prend un bout de papier et un crayon. Il griffonne l'adresse et le nom de sa sœur.
Tenez, allez-y de ma part.
Merci. Galien termine son verre et sort du café. Une fois dehors, il se dirige vers la rue. L'adresse qu'on lui a donnée est une imposte dans une rue populaire. Elle n'est pas très grande. Il y a des immeubles vétustes, du linge aux fenêtres, on entend la radio. Des enfants qui jouent sur les trottoirs. Ça sent l'humidité. Des chats à demi sauvages qui courent dans tous les sens. Des chiens qui font leur besoin sur le trottoir. L'immeuble où il doit se rendre est au fond de l'impasse. L'immeuble à 4 étages, il est comme les autres. Il va rentrer dans l'allée. L'allée est sans porte. Il entre dans l'allée. L'allée est étroite, sale, boîte aux lettres dépareillée, sol, pierre, escalier étroit. Malgré tout, il y a une loge de concierge. L'on voit une pièce avec porte vitrée. Galien regarde le nom sur les boîtes aux lettres pour voir où elle est, à quel étage. Il voit c'est que troisième à droite. Il monte jusqu'au troisième. L'allée est tellement sombre qu'il est obligé d'éclairer. Au troisième à droite, il sonne. Le ouvert, une femme d'un âge petite, grosse, cheveux gris, lunettes, habillée d'une robe noire. Elle a une canne pour marcher.
Vous désirez, monsieur ?
Bonjour, madame. Je m'appelle Denis Lacroix et je cherche un logement. Votre frère m'a donné votre adresse. Il paraît que vous avez une pièce à louer.
Entrez, monsieur.
Galien entre. Petit couloir sombre avec des portes. Elle va ouvrir une porte.
Entrez.
Il entre. C'est une salle à manger 1930 avec un grand buffet, une table recouverte d'une toile cirée représentant des Arabes avec des chameaux et des petites maisons. Sur le mur, il y a un calendrier. Au-dessus de la table, un lustre avec plein de chiffons pour tamiser la lumière. Le buffet est plein de petits objets pour faire beau et des photos. Il y a aussi des plantes vertes avec de petits tabourets contre un mur. Une vieille machine à coudre à pédales Singer. La dame lui dit «
Asseyez-vous ».
Il va s'asseoir à table. Elle va s'asseoir en face de lui. Elle lui demande
« Vous connaissez mon frère ?»«
Non, c'est la première fois que je suis rentrée comme ça par hasard dans son café. Il m'a demandé si j'étais du quartier, alors je lui ai dit que je cherchais un logement. » Elle lui dit
« Les temps sont durs. Je loue, c'est pour me faire un petit revenu.
Je n'ai pas grand-chose depuis la mort que mon mari est mort.
Il travaillait au chemin de fer et un jour de grève, il y a eu des émeutes. Il a été tué. On lui a donné un coup de barre de fer. On ne sait pas par qui. J'ai une petite retraite et la pension de mon mari, mais cela fait peu. Les temps sont très durs. Heureusement que je suis propriétaire de mon logement. C'est mes parents qui m'ont laissé ça.
Et vous ?
Galien lui dit.
Moi, je suis au chômage. J'ai fait la plonge dans un restaurant, il a fermé.
Vous n'avez pas d'argent alors ?
Si, il m'en reste un peu et puis ma mère m'aide un peu. Ne craignez rien, j'ai de quoi payer,
elle lui dit. Il faut que je fasse attention parce que je veux payer comme ça. Sans le déclarer, vous comprenez, les impôts ça coûte cher. Il faudra me payer, au moins à l'avance et en espèces. Bien entendu, je ne pourrai pas vous donner de papier.
Cela vous va ?
Galien lui répond, oui, très bien. Elle sourit et lui dit, vous avez l'air d'un brave garçon. Je vais vous montrer l'appartement.
Elle se lève, Galien aussi, et il la suit. Ils sortent de la salle à manger. Et de l'appartement. Monte jusqu'au dernier étage. Là se trouvent plusieurs portes. Elle lui dit, c'est ce qu'on appelait des chambres de bord. Elle ouvre une porte, éclaire, entrez, il entre.
C'est une petite pièce avec une fenêtre sur la rue, plancher pas ciré, mur tapisserie gris sale défraîchi, et à un endroit, l'on voit la trace des meubles. Il y a, contre un mur, un lit à une place en fer. De l'autre côté, une armoire sans âge, une table ronde et une chaise. Voilà, cela vous va ?
Oui, ça ira, je vous remercie,
elle lui dit. Il y a un lavabo sur le palier, et les WC aussi sont sur le palier. Vous aurez une clé pour y rentrer.
Il fait le tour de la pièce.
Elle lui dit, c'est bien, je vous remercie. Elle lui dit, bien, alors vous allez me payer un mois d'avance et je vous donne les clés. Il sort de sa poche, son portefeuille en plastique, en sort des billets. Ça va comme ça ?
Oui.
Elle lui tend les clés.
Ah oui. J'ai oublié de vous dire.
Bien sûr, vous payez l'eau et l'électricité.
Bien entendu, madame,
elle lui dit. Dès que
je recevrai les factures, je vous les amènerai.
Parce qu'elles sont à mon nom.
Oui, bien sûr.
Bon, eh bien, je vous laisse. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez me trouver.
Merci, madame.
Et elle le quitte.
Galien se dit que ce sera parfait. Pour faire vrai, il va acheter quelques petites choses pour se faire un peu à manger, la literie, puis quelques affaires et produits d'hygiène. Puis, il sort de la pièce. Regarde où se trouvent les WC et le lavabo.
Il voit au milieu du couloir un petit lavabo et à côté une porte marquée dessus WC. Avec la clé, il ouvre la porte. C'est un WC turc, mais qui est à peu près propre. Puis, il descend les escaliers pour s'en retourner chez lui.
Voilà, tout est prêt pour cette nouvelle vie. Nouvelle vie, ou plutôt double vie.
Par dans la rue Berger, s'il vous plaît.
Là-bas.
Chez lui, il a un peu honte de se retrouver dans ce luxe.
Pendant le repas, qu'il prend dans la salle à manger, il se dit qu'il joue aux pauvres, mais le ventre plein. Dans la soirée au salon, il réfléchit pour savoir à quelle heure il pourra y aller. Le lundi, ce n'est pas possible. L'après-midi à 15h, oui. Mais il faudra que je retourne coucher ici. Je pourrais aussi, si je ne vais pas à Lyon ou au château, passer le samedi et le dimanche. Revenir que le lundi matin. Oui. Après, on verra. Le lendemain, il sort de son bureau à 15h. Il va acheter des choses qui lui manquent pour sa nouvelle vie. Il est surpris par le prix des produits. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas acheté lui-même des choses. Puis, il rentre dans sa nouvelle pièce et range le tout. Thank you. Les jours passent et il ne se passe pas grand-chose. Un jour, il croise un homme dans les escaliers, petit, cheveux gris, maigre, veste de laine grise, pantalon bleu. L'homme lui demande :
Vous cherchez quelqu'un ?
Non, merci, je suis nouveau locataire.
Et moi, le concierge. Je m'appelle Monsieur Ledoux.
Moi, c'est Lacroix, enchanté. J'habite au 4e, la chambre de bonne de Madame Dupin.
Ah oui ! Je vois.
Désormais, lorsque le concierge le voit, ils parlent un peu ensemble. Il lui raconte les misères des gens, du quartier, de la vie difficile. Un jour, en descendant les escaliers,
la porte de l'appartement vient de s'ouvrir.
Une jeune fille, blonde, yeux bleus, dans les 20 ans, est habillée d'une veste en laine grise et d'une jupe marron. Elle lui dit :
Bonjour, bonjour. Vous êtes nouveau ?
Oui, je m'appelle Denis Lacroix.
Et moi, Martine Combes.
Vous êtes de Paris ?
Non, de Lyon. Je suis venu à Paris pour travailler.
Et elle lui dit : Les gens croient toujours trouver du travail à Paris. Mais malheureusement, c'est comme toutes les autres villes. Feriez mieux, c'est de retourner à Lyon.
Il lui dit :
Attendez, je viens tout juste d'arriver. Et puisque, comme vous dites qu'à Paris, c'est comme ailleurs, c'est la même chose, alors ?
Elle sourit et lui dit :
Oui, c'est vrai.
Et descend des escaliers. Une fois sortie de l'immeuble, elle lui demande :
Vous allez quelque part ?
J'allais faire quelques courses.
Elle lui dit :
Quel petit épicier qui est au fond de la rue.
Il est pas mal, lorsqu'il y a quelque chose à vendre, bien entendu. Parce que de nos jours, c'est difficile de trouver des choses.
Moi qui adore le chocolat, c'est mon péché mignon. Eh bien, cela fait 15 jours que je n'en ai pas trouvé. Plus de stock, c'est comme pendant la guerre. Venez. Allons à l'épicerie. Là-bas. J'ai dû les apprendre. Et ils y vont.
Devant l'entrée d'une petite épicerie, l'on fait la queue. Il y a des femmes, des hommes de tout âge, habillés simplement avec des cabas. Il y en a à peu près une vingtaine de personnes. L'on entre petit à petit, au fur et à mesure que les gens sortent. Mémé, habillée en robe noire, avec un cabas, sort et dit :
Il n'y a même plus de petits pois. C'est une vraie misère.
Pardon, la rue Berger, s'il vous plaît.
Là-bas.
Au bout d'une demi-heure, ils sont entrés dans le magasin. L'épicier, un homme en blouse blanche, leur dit :
Je n'ai que des carottes, du fromage de chèvre
et du pain de seigle. Il n'y a plus d'arrivage. » Galien lui demande « Comment cela se fait-il ? »
L'épicier lui dit
« Comment cela se fait-il ? Eh bien, les stocks sont vides et il n'y a personne pour les remplir. Et puis, l'on ne produit plus, les usines sont fermées à cause du manque de matières premières. »
Une petite mémé leur dit
« La vie est très chère ici. Les gens ne peuvent plus acheter, ce qui crée chômage et misère. »
Galien se dit que dans les magasins de luxe, il y a de tout. Une femme dans les 40 ans, cheveux frisés, demande à l'épicier
« Alors, que mangeons-nous ce soir ?»
L'épicier lui dit « Des carottes. »
« Eh bien, nous allons bien manger. On nous prend pour des lapins ?»«
Eh oui, ma pauvre dame. Alors, je vous en mets combien ?»
Elle lui dit.
La mémé dit
« C'est des carottes artificielles. Comment on en fait maintenant ?»«
Oui, pure technique. »
Il y a du plastique dedans ?
Non. Galien dit à la mémé, les produits bio sont très bons, madame. Elle lui dit,
ça c'est vous qui le dites. Il y a plein de produits chimiques dedans.
Mais non, bien au contraire, ces produits n'ont pas besoin d'insecticides. C'est mieux que les produits classiques.
Et la vache folle ?
C'est pas la même chose. La jeune fille qui a coqueté Galien lui dit, vous semblez vous y connaître ? Il lui dit, oui un peu.
Martine lui demande, comment faites-vous pour en savoir autant ? Galien lui dit.
Il suffit de demander des informations au laboratoire biotechnique Genetou. C'est même un numéro vert, gratuit. Et vous répondent à toutes les questions.
Martine lui dit. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est la vérité ?
Galien lui dit. Il vous envoie des brochures. Et je vous en apporterai si vous le voulez.
L'épicier demande à la mémé.
Alors, vous les prenez ces carottes ?
La mémé fait la grimace et lui dit.
« Bon, j'avais de la chance qu'il n'y ait rien d'autre à manger.
Les carottes, donnez-moi 1 kilogramme. »«
Bien. » Et il la serre. Puis il demande à Galien, « Et vous ?»
Galien lui dit, « Du fromage. »«
Bien. » Martine lui dit, « Puisque vous avez le fromage, moi je prends le reste et nous dînons ensemble. Cela vous va ?»
Galien lui dit, « Oui, bien sûr. »
Une fois sorti du magasin, il s'en retourne.
Une fois dans l'allée, Galien demande « On mange chez moi ou chez vous ?»
Elle lui dit « Chez moi, car je suis sûr que vous n'avez pas grand-chose pour faire la cuisine. »
Et ils y vont.
Entrez. Il entre. Petit couloir. Elle ouvre une porte. Entrez. Il entre.
C'est une salle à manger meublée 1960. Il lui dit, c'est bien, c'est grand chez vous.
Elle lui dit, c'est simple mais propre. Asseyez-vous, je vais préparer le repas. Des carottes.
Il lui dit, je peux vous aider si vous le désirez.
Pour des carottes, pas la peine. Asseyez-vous.
Et il s'assoit à table. Elle, elle va ouvrir le buffet. Pour en sortir un verre et une bouteille. Qu'elle va mettre sur la table.
Elle
Elle lui dit « Malheureusement, c'est rien d'autre que ce petit apéritif. Servez-vous. Merci. »
Il se sert.
Et elle sort de la pièce.
Il boit un petit gorgée et se demande ce qu'il va pouvoir faire, quelque chose d'utile chez Jean.
Elle revient avec le couvert.
Qu'elle met. Qu'elle met.
Puis elle repart. Et revient. Avec le pain et le fromage. Et repart. Et revient. Avec une casserole chaude. Voilà, les carottes, j'ai fait avec de la sauce tomate. Il m'en restait un peu. Et elle sert. Et s'assoit en face de lui.
C'est chaud. Elle lui demande, ça peut aller, c'est mangeable? Il lui répond, oui, très bien. Elle lui dit, elles sont un peu dures. Ils ont dû les amidonner parce qu'elles ont une bonne forme. Galien sourit, je ne crois pas qu'ils font ça. Elle lui dit, les temps sont pas faciles. Il lui demande, qu'est-ce que vous faites? Pour le moment, je suis au chômage. J'étais étudiante pour être infirmière. Et vous ne trouvez pas de travail? Non. Pourtant, avec tous les gens qui sont malades, blessés, elle lui dit, oui, mais le gouvernement, les gouvernements successifs, plutôt, ont supprimé des lits, comme ils disent, pour faire des économies. Parce qu'en lit, ça coûte cher. Alors, en supprimant des lits, on supprime des postes, des hôpitaux, et on fait des chômeurs, et ensuite des STF, qui, par manque de soins, deviennent des locataires de fosses communes, assez rapidement. C'est bien le progrès. Donc, vous n'avez jamais travaillé?
Si, une fois. Chez un médecin. Un médecin bizarre. Il n'avait... très peu de clients. Il était spécialiste dans la digestion. Son cabinet se trouvait dans un appartement, un vrai capharnaüm. Chaque fois qu'une cliente venait le voir, il passait un temps à la draguer. Ça se terminait toujours par des disputes impossibles. Et puis, un jour, plus personne n'est venu le voir,
Alors il voulait me draguer. Je l'ai laissé tomber avec une bonne gifle. Il lui demande, mais il vivait comment s'il n'avait pas de clients? C'est sa femme qui faisait vivre. Elle était issue d'une famille bourgeoise. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle faisait avec cet homme. Vous voulez encore des carottes? Oui, merci, elles sont très bonnes. Elle lui dit, oui, malgré qu'elles soient en plastique. Ne dites pas ça. La biotech fait des produits naturels, améliorés. Il faudra que je vous fasse lire les brochures, si vous voulez. Et elle fait le service. Il lui demande, et votre famille? Elle lui dit, mon père était ouvrier chez Renault, travaillait avec des heures qui cassaient la vie. Et c'était très dur. Mais il ne se plaignait jamais. Il a connu le temps où l'on faisait jusqu'à 70 heures par semaine, où il n'y avait que 3 semaines de congé pour les plus de 17 ans et 4 pour les plus jeunes. Mais il disait que l'ambiance était meilleure que maintenant, et que même qu'en 70, 80 et 90, on travaillait beaucoup, mais d'une façon plus détendue. Et votre mère? Ma mère ne travaillait pas, parce qu'elle était malade des nerfs depuis fort longtemps. Elle s'est suicidée il y a 15 ans de cela à cause d'un médecin. Racontez-moi ça. Eh bien, ma mère, durant plus de 20 ans, on lui donnait un médicament. Oh, c'était pas un médicament extraordinaire. Vous le connaissez peut-être, le surmontil. Mais elle devait en prendre plusieurs fois par jour. C'était pour lui régulariser son système nerveux. Un jour, le président de la République a dit que l'on dépensait trop de médicaments. Alors, le ministre de la Santé l'a dit aux médecins qui, eux, ont fait pour satisfaire les politiques. Alors, le médecin de ma mère a arrêté d'un coup le surmontil sans rien lui donner de plus. Ça a été terrible pour ma mère. Elle s'est mise de suite à déprimer. Elle pleurait tout le temps. Pensait constamment à sa vie, qu'elle voyait comme un échec, ne supportait plus rien, même mon père. Et puis après, une période de grande excitation, de cris, de pleurs, de travail à outrance, elle n'a plus eu goût à rien. Elle voulait mourir. C'est devenu une fixation. Elle est couchée, elle n'a plus voulu se lever. Elle pleurait, elle tout le temps. Elle passait son temps dans son lit à dire qu'elle était coupable de ne rien faire. Mais en même temps, elle ne voulait pas se sortir de son lit. Alors, elle voulait mourir. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide par médicaments, au gaz, ou en se sauvant de la maison. Et on la retrouvait sur les quais. Elle a fait plusieurs séjours de maison. Ça allait mieux quelque temps, puis la dépression revenait rapidement. Et un jour, elle s'est levée, elle a dit qu'elle allait aller au marché pour faire quelques courses. Elle a pris un bon petit déjeuner, s'est habillée, pris son porte-monnaie avec un peu d'argent, et elle est partie. Elle n'est plus revenue, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais l'on croit qu'elle a dû se noyer. Galien lui demande, on n'a jamais retrouvé le corps? Non. Et puis c'était en novembre, il y avait beaucoup plu et la Seine avait débordé. Peut-être que le corps est parti à la dérive et s'est accroché quelque part. Ça a dû être terrible pour vous et votre père. Oui, il a fait une dépression à son tour et ne pouvait plus vivre où elle avait vécu. Alors il a quitté Paris. Il lui demande, vous n'avez pas d'autre famille? Si, j'ai une tante qui habite en Bretagne. Elle est aussi indépendante et a toujours vécu seule. De temps en temps, elle m'invite chez elle. Thank you.
fois qu'ils aient fini de manger, elle lui dit
« Voilà un repas qui a duré un bon moment. »
Il lui dit « Oui, pour un repas simple, il a duré autant de temps qu'un repas normal. Mais c'était très bon. »
« C'est vrai ?»«
Oui, et pourtant je n'aime pas les carottes. Mais celles-là, elles étaient très bien, ont beaucoup plu.
Merci. »
Elle sourit et lui dit « Je crois que des repas comme celui-là, il y en aura de moins en moins. » Il n'y a que la France est soi-disant un pays très riche.
Il lui dit, oui, c'est vrai, mais l'argent n'est plus distribué qu'entre les classes. Ce sont toujours les mêmes qui reçoivent l'argent. Mais c'est fait exprès. La misère enrichit les autres. Elle permet d'avoir du personnel à bon marché sans charge sociale. C'est en quelque sorte les esclaves modernes. Elle lui demande « Mais que faire ?» Il lui dit « Il faut lutter en refusant de travailler dans ces conditions et en créant des emplois parallèles en coopérative et n'acheter que ce qui provient de ce travail. Comme cela, l'on ruinera ceux qui créent la misère. » Elle lui dit « Voilà une chose à faire et pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? C'est pas impossible pour moi. »
Pourquoi ? À cause de ma vie.
De quelle vie ?
Oh, ce serait un peu trop compliqué à vous expliquer.
Je crois qu'il se fait tard.
Elle lui dit, oui, ils vont couper l'électricité.
Et ils se lèvent tous deux.
Je vais vous raccompagner.
Elle le mène jusqu'à la porte. Ils sortent du séjour. Avant de l'ouvrir, elle lui dit « Bonne nuit » et l'embrasse sur la joue. Il est un peu surpris. Il lui dit « Bonne nuit » l'embrasse aussi sur la joue. Et il sort de l'appartement. Puis, il va chez lui.
Chez lui se demande ce qu'il pourrait faire pour elle. Je ne peux pas le transformer en prince charmant, elle me rejetterait. Le prince en ce moment n'a pas la côte. Alors que faire ?
Le lendemain, pour faire comme il devait faire, il décide d'aller à la NPE pour se faire inscrire. Il trouve la NPE du quartier qui est dans un vieil immeuble cossu. Et pour indiquer à NPE, ils ont mis de gros trucs idiots en plastique blanc et bleu autour de l'encadrement de la porte d'entrée. C'est d'un moche. C'est comme ces plaques idiotes que l'on met sur les façades des écoles style Napoléon III, en mâchant en plastique blanc qui enlaidit toute la façade. Il entre dans la NPE. Il y a un long couloir où à droite se trouvent les panneaux d'offres d'emploi. Et à gauche, des petits bureaux vitrés pour les employés de la NPE qui doivent aider à trouver de l'emploi.
Avant de se faire inscrire, il va regarder les panneaux de demande d'emploi. Les demandes sont accrochées aux panneaux. Ce sont des petites fiches de papier de couleur. Chaque couleur correspond à peu près à un type de métier. Le hall est presque vide. Il y a très peu de gens qui regardent les panneaux. Les offres d'emploi, c'est un boucher qualifié, un manutentionnaire, emploi réservé aux handicapés. La personne doit avoir une certaine force physique, très résistant physiquement, et doit savoir prendre des initiatives, etc. En lisant cette annonce, qui est vraie, car je l'ai moi-même lue à la NPE, Galien se dit handicapé de quoi ? Par moteur, puisqu'il doit être costaud. Par mental, puisqu'il doit prendre des initiatives. Sûrement handicapé pour le salaire. La plupart des demandes, c'est pour une personne, pour quelques jours, et même pour des emplois idiots qui avant en demandaient rien, là il faut bac plus pour un coup de balai ou remplir des caisses de briquets. Un homme s'approche de Galien. Il est de taille moyenne, maigre, chauve, lunettes, costume gris. Il voit que c'est un employé de la NPE car il a un badge. L'homme lui dit: Monsieur, vous désirez ? C'est pour me faire inscrire. L'homme lui dit: Nous fermons à 16h, c'est-à-dire dans un quart d'heure. Et les inscriptions ne se font que du lundi au vendredi entre 9h et 10h30. Galien lui demande: Et que font les chômeurs ? L'homme lui dit: L'heure, c'est l'heure. Lundi à jeudi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h. Le vendredi, de 8h30 à 11h30. Pas l'après-midi, le samedi est fermé. Eh bien, c'est comme ça que vous vous occupez des chômeurs ? L'homme lui dit. Nous en occupons, monsieur. Mais nous aussi, nous avons nos choses à faire. Il faut bien que l'on se repose. Galien lui dit. 3 jours et demi par semaine ? Notre travail est très pénible psychologiquement. Une petite sonnerie retentit. L'homme lui dit. Il est temps de partir, l'on ferme. Galien regarde sa montre, il est -5. Il est décidé de revenir. Le lendemain, à 8h30, il va à la NPE pour se faire inscrire. Là, pour l'inscription, il y a du monde. Les gens sont assis, debout, qui attendent devant un bureau. L'on entre un par un. Tout le monde fait grise mine, là, pauvre. Un homme à barbe et cheveux noirs dit à Galien : Ça fait la 20e fois que je m'inscris.